pour vous faciliter le quotidien. L'intermédiaire avec Malika Bousla.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Fréquencier. C'est donc l'émission du mardi, l'intermédiaire. Voilà, merci à vous tous de brancher sur Fréquencier. Aujourd'hui dans cette émission, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir sur notre antenne Jean-Luc Romero. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président de l'ADMD, c'est l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Il faut savoir que cette association milite déjà depuis 32 ans pour le droit à mourir dans la dignité. Donc elle a été créée en 1980 par l'écrivain Michel Lilanda, c'est bien ça?
Oui. Oui, c'est bien ça.
Voilà, alors peut-être un petit mot aussi sur cette personne, sur cet écrivain, Michel Lilanda, qui était-il?
Ben écoutez, c'était un écrivain franco-américain qui avait écrit une tribune dans Le Monde pour revendiquer le droit de mourir dans la dignité. Et suite à cette tribune, il a reçu un courrier incroyable de gens qui souhaitaient s'engager à ses côtés dans ce combat-là, et ça lui a donné l'idée de créer notre association, qui aujourd'hui est devenue une des plus grandes associations, en tout cas dans le champ des questions d'éthique et de fin de vie, est la plus grande, puisqu'aujourd'hui l'association pour le droit de mourir dans la dignité réunit 49 000 adhérents.
Oui, 49 000, oui, c'est pas rien. Et puis l'association aussi donc compte des membres de tout horizon, hein, entre autres des médecins.
Oui. Oui, oui, elle a des médecins, elle a un certain nombre de philosophes. Vous savez, cette question est une question qui évidemment nous concerne tous, puisqu'on est 100% à mourir. Il y a peu de questions qui concernent autant les Français. Mmh. Et on se rend compte évidemment que elle mobilise beaucoup dans notre association, mais aussi beaucoup dans la société.
Alors l'objectif, on l'a bien compris, hein, c'est qu'une loi soit votée, donc ou pour l'euthanasie ou l'autodélivrance, hein, dites-moi si je me trompe.
Oui, oui, tout à fait, l'euthanasie ou ce qu'on peut appeler le suicide assisté.
Le suicide assisté, donc c'est l'autodélivrance assistée, c'est ça?
Voilà, tout à fait, ouais.
Voilà, faut dire que cette ultime liberté est présente chez les voisins, les Néerlandais, les Belges, en Luxembourg aussi, chez les Suisses, et pourtant en France, on reste un peu à la traîne, pourquoi?
Alors on est à la traîne, même si en ce moment les choses semblent un tout petit peu évoluer. Et si vous voulez, il y a ce que j'ai moi appelé dans mon dernier livre les voleurs de liberté, c'est-à-dire d'une part ces mandarins parlementaires, c'est-à-dire ces députés et ces sénateurs qui sont en même temps des grands professeurs de médecine, qui ont du mal à comprendre que c'est le patient qui doit décider ce qui est le mieux pour lui, que le médecin est là pour le conseiller, pour lui dire quels sont les meilleurs traitements, mais que c'est lui qui doit décider. Et je crois qu'il y a une génération de mandarins qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'est la démocratie sanitaire et qui n'arrivent pas à comprendre qu'un patient, en fin de vie, il peut savoir ce qu'il veut et il reste citoyen jusqu'au bout. Et puis vous avez à côté d'eux ces parlementaires pro-life, c'est-à-dire ces députés et ces sénateurs qui sont organisés par l'Église catholique. Alors ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont organisés. Et chaque fois qu'il y a un texte qui va contre les visions de l'Église, ils sont extrêmement présents en séance et ils arrivent comme ça depuis des années à bloquer nombre de textes sur les lois bioéthiques, sur les lois sur la famille et puis bien sûr sur les lois sur la fin de vie. Donc la conjonction de ces deux catégories de parlementaires a fait que dans notre pays, eh bien jusqu'à présent, ça n'a pas évolué. Mais je crois que depuis la dernière campagne présidentielle, les lignes sont quand même en train de bouger.
Mmh. Oui, il faut savoir quand même qu'il y a un fort pourcentage de Français qui voudraient l'obtention de cette loi.
Les sondages sont, vous avez raison de le rappeler, sont assez constants. C'est-à-dire que depuis 20 ans, les sondages donnent entre 86% et certains récemment 94% des Français qui sont favorables à l'égalisation de l'euthanasie. Et dans les questions qui sont posées, il y a le mot euthanasie, parce que certains disent oui, ces sondages ne sont pas réels, on demande aux gens s'ils veulent mourir sans souffrance. Non, dans les, D'ailleurs, ce serait quand même étonnant qu'il y ait 6% dans le dernier sondage qu'il y ait des gens qui acceptent à mourir dans la souffrance. Dans les sondages, on pose réellement la question de l'euthanasie et les Français, voilà, mais vous savez, c'est parce qu'ils ont du bon sens. Les Français ne veulent pas tous être euthanasiés, bien sûr, mais ils veulent tout simplement que si leurs souffrances sont insupportables en fin de vie, pouvoir dire stop et que ce soit eux qui le disent. C'est pas à leur héritier de décider, évidemment, ni à leurs proches même. Et c'est pas non plus aux médecins de décider pour nous si on souhaite arrêter le chemin ou si on souhaite continuer. Et donc voilà, c'est tout à fait du bon sens. Et d'ailleurs, vous savez, quand vous regardez les sondages dans les autres pays européens, ils donnent exactement la même chose qu'en France. Il y a une vraie volonté aujourd'hui dans notre Europe, dans notre vieille Europe, des citoyens de pouvoir décider de ce qui est le mieux pour eux-mêmes à la fin de leur vie. Et puis quelque part, d'être des experts de leur propre vie, parce que c'est vrai qu'on a confisqué ce débat pendant des années. C'est quand même un débat médical qu'on nous a fait, avec des experts qui parlent tout le temps, alors qu'en fait, les vrais experts, c'est chaque citoyen qui l'est, puisque chacun d'entre nous allons mourir, et c'est à nous de décider ce qui est le mieux pour nous.
Et puis, il faut tenir compte aussi de toutes ces personnes qui sont confrontées à une fin de vie insupportable. Pour ces lois qui devraient être votées, le Parlement en tient compte? Est-ce qu'il se renseigne aussi?
Alors, c'était ça le problème, c'est-à-dire que, vous savez, pour qu'il y ait enfin une proposition de loi proposant la légalisation de l'euthanasie soit discutée au Parlement, il a fallu attendre 2009 à l'Assemblée nationale et 2011 au Sénat. Et malheureusement, ces textes ne sont pas passés. Mais il n'y avait jamais eu de discussion autour d'un texte qui proposait enfin d'accorder leur ultime liberté aux Français. Donc on voit qu'il y a eu un vrai décalage là-dessus des politiques. D'ailleurs, on parle beaucoup de questions de société en ce moment, l'ouverture du mariage aux conjoints de même sexe. Hier, c'était le droit de vote des étrangers. Et on voit que sur la question de l'euthanasie, il y a un certain malaise dans la classe politique. C'est la question qui fait le plus d'unanimité chez les Français et c'est la question qui semble la plus difficile chez nombre de responsables politiques français.
Mmh. Est-ce que c'est pas aussi un déni de la mort? Est-ce que c'est pas... parce que bon, c'est... Moi, j'ai vu aussi sur votre site internet, d'ailleurs j'invite nos auditeurs à y aller sur ce site, hein, puisqu'il est très complet. Donc vous mettez sur ce site internet aussi une conscience qui disparaît?
Vous savez, d'abord... globalement dans la société on meurt différemment d'avant, vous savez, avant on mourait chez nous, entouré des nôtres. Aujourd'hui 76% des gens en France meurent à l'hôpital ou en institution et à peine 24% d'entre nous mourront entourés des nôtres. Ça veut dire qu'on meurt seul et à l'hôpital. Donc les morts ont changé et les gens voient de moins en moins les morts. Donc la mort, on a essayé de l'écarter de nos vies. Pour certaines personnes, c'est presque devenu comme un accident de parcours. Alors que c'est évidemment le terme de notre vie. Et chez les politiques, paradoxalement, c'est en politique... En France, il faut être fort, il faut pas être malade, il faut comme si on peut. Il y a plein de gens qui sont malades, qui peuvent continuer à travailler, qui ont toute leur tête. D'ailleurs, on fait tout pour intégrer les grands malades, etc. Et en même temps, les politiques, il faut qu'ils soient en bonne santé et ils pensent tous qu'ils vont mourir d'une crise cardiaque en écrivant leur mémoire. oui. Sauf que la réalité, c'est pas celle-là.
Mal, c'est pas très
beaucoup, tu sais, en France, il y a rien que 150 000 personnes qui meurent tous les ans du cancer. Et ça, je pense que malheureusement, ça n'épargne pas les responsables politiques. On a beaucoup de mal à se pencher sur ça et puis sur les conséquences aussi de certaines maladies, parce que si aujourd'hui on soulage beaucoup de douleurs physiques, pas toutes quand même, vous savez, il y a 5000 personnes qui ont des douleurs réfractaires par an que rien ne peut soulager, les souffrances psychiques peuvent être aussi violentes quand vous êtes en fin de vie que les douleurs physiques.
Donc il y a des conséquences aussi sur les personnes âgées, je pense, sur le suicide aussi, suicide solitaire, de plus en plus.
Alors, vous avez raison, vous savez, on détient en France un terrible record avec le Japon et la Corée du Sud, on a le plus fort taux de suicide de toute la zone OCDE. Mais si au Japon et en Corée du Sud, c'est le suicide des jeunes, qui est dramatique souvent, vous voyez, pour des raisons qu'on aurait pu éviter. En France, c'est le suicide des seniors et des grands malades. En France, 5% des suicides sont des suicides de moins de 25 ans et plus de 30% sont des suicides de plus de 65 ans. Et on constate que, bien sûr qu'il y a un phénomène aussi qu'on ne peut pas négliger, qui est le fait que les personnes âgées sont de plus en plus seules aujourd'hui, que les familles sont plus éclatées qu'avant et qu'évidemment il y a des personnes qui qui vivent un vrai malheur et que là-dessus, la société doit faire un travail pour réorganiser la solidarité, pour faire que des personnes ne se retrouvent pas seules comme ça. Mais ce qu'on ne regarde jamais et qu'on ne veut surtout pas voir, c'est qu'il y a énormément de personnes âgées ou de grands malades qui, sachant que l'échéance va arriver bientôt, qui ne pourront pas être aidés s'ils estiment que leurs souffrances sont insupportables, bien précèdent cette mort en se suicidant souvent prématurément, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir et quand les souffrances vont devenir atroces. On peut vous dire qu'il vous reste 3 mois d'espérance de vie, c'est la moyenne pour une certaine maladie ou un stade d'une maladie, sauf que vous savez ce que c'est. Il y a des gens, il leur reste a priori 3 mois, et il y en a, ils vont mourir, on ne sait pas pourquoi, en 3 jours. Et puis d'autres, 10 ans plus tard, ils sont toujours là. Sauf que quand on sait que voilà, la moyenne, c'est un peu ça, eh bien on se suicide tant qu'on est capable de le faire. Mmh. Donc certainement prématurément. Et puis en plus, dans des conditions violentes. Parce qu'à ceux qui se prononcent contre l'euthanasie et le suicide assisté, bah, qui regardent les statistiques françaises sur suicide des malades et des seniors, 50% se pendent, les autres se tirent une balle dans la tête, d'autres enfin se jettent dans le vide, particulièrement les femmes. Vous imaginez cette violence pour eux-mêmes, pour les proches qui vous retrouvent dans une mare de sang ou pendus à la poutre du plafond. Et ça, personne ne veut le voir en face. Et d'ailleurs, nos statistiques de suicide des seniors et des grands malades, il est 2 fois supérieur à celui des Pays-Bas. Comme par hasard, les Pays-Bas, c'est le premier pays à avoir légalisé l'euthanasie, en Europe. Et évidemment que les gens, eh bien, dans ce pays-là, ils savent qu'ils peuvent être aidés sur leurs souffrances sont atroces, donc ils n'ont pas besoin de se suicider de manière prématurée et surtout d'une manière violente.
Oui. Alors, vous avez pris l'exemple du Pays-Bas, donc peut-être aussi dans ce pays-là, on assume mieux la vieillesse, on l'accepte. C'est vrai que la société est axée sur la jeunesse plus.
Oui. Non, mais c'est ça qui est assez paradoxal. On montre du doigt ici, sans connaître, enfin ceux qui sont opposés à l'euthanasie montrent les Pays-Bas, montrent la Belgique en disant c'est horrible ce qui s'y passe. La vérité, on invente même, vous savez, même une étude que même des gens sérieux osaient utiliser en France en disant que tous les seniors dans ces pays-là fuyaient leur pays de peur d'être euthanasiés. La réalité est évidemment tout autre. Dans ces pays-là, et c'est ça qui est assez incroyable, il y a une adhésion au système de santé extrêmement forte et notamment chez les aînés, adhésion qui n'existe pas dans notre pays de cette manière-là. Mmh. On meurt aussi beaucoup mieux dans ces pays-là. Au-delà du fait que les gens sont entendus, aux Pays-Bas, par exemple, je vous disais tout à l'heure qu'en France, 76% des gens meurent à l'hôpital ou en institution, eh bien, aux Pays-Bas, c'est une majorité de gens qui meurent encore chez eux. Donc ça veut dire qu'on a mis les moyens pour que les gens qu'ils souhaitent puissent mourir chez eux et puissent mourir à côté des leurs. Donc on voit que dans ces pays, on meurt beaucoup mieux. D'ailleurs, il y a tous les ans une étude qui est faite par un organisme indépendant international qui classe les pays selon la façon dont les gens meurent et les Pays-Bas et la Belgique sont toujours en haut du classement, c'est-à-dire qu'ils font partie des pays où les personnes sont les mieux accompagnées, les mieux entourées et surtout les mieux entendues. Donc on voit qu'à tous les détracteurs de l'euthanasie et qui utilisent ces pays comme un repoussoir, bah c'est tout le contraire. C'est dans ces pays où les gens sont entendus et c'est dans ces pays où les gens sont respectés.
Alors on l'a dit, la France est en retard, mais il y a quand même eu des lois de voter. Il y a eu des avancées.
Il y a eu, oui, des avancées, même si avec le recul, on peut se poser des questions. Par exemple, la loi de 2005, celle qu'on appelle la loi Leonetti, qui accepte désormais que les gens puissent refuser les traitements. C'est bien la moindre des choses qu'on puisse nous-mêmes, en tant que citoyens, dire on me donne une 4e chimiothérapie, j'estime que pour avoir quelques jours de plus et en plus pour souffrir avec cette chimiothérapie, j'en veux pas. C'est bien la moindre des choses quand même qu'on nous accorde ça. Et quand on regarde cette loi, on se rend compte quand même que c'est une loi qui a été faite par des médecins, pour des médecins, et qui donne l'essentiel du pouvoir aux médecins. Et c'est ça que nous nous reprochons. Mmh. C'est que nous estimons que il faut bien sûr entendre les médecins, mais que d'abord, avant de cela, il faut écouter la personne qui meurt. C'est elle qui doit être au centre. Et on voit que malheureusement, cette loi, elle ne met pas au centre le patient en fin de vie.
Mmh. Alors, est-il possible quand même de s'exiler dans un pays qui autorise le droit de mourir dans la dignité ?
Alors oui, c'est possible. Moi, je pense que c'est pas la solution parce que moi, j'ai pas envie de fuir mon pays tel un paria pour aller mourir dans la dignité en Suisse.
Oui,
par
mais
exemple.
On sait que c'est trop important pour laisser libre choix à quelqu'un d'autre de sa mort.
Donc, oui, ça pourrait être une possibilité. Vous vous rendez compte qu'à une époque, les femmes devaient fuir pour se faire avorter en Suisse ou en Grande-Bretagne, et aujourd'hui, on doit fuir pour mourir comme on le souhaite et pour mourir sans souffrance. C'est quand même un peu terrible. C'est quand même un message terrible que donne la société française. Parce que moi, je remercie ces pays comme la Suisse qui nous accueillent. Mais en même temps, je dis, est-ce que c'est normal que des gens doivent partir, quitter leur environnement, quitter leurs proches pour mourir comme ils le souhaitent? C'est pas normal dans un pays laïque. Je rappelle que, d'ailleurs, pour s'opposer à notre ultime liberté, c'est essentiellement des arguments religieux qu'on entend. Et je dis, c'est pas normal que dans une république comme la nôtre, le pouvoir religieux ait une telle influence. On a encore vu ces derniers jours Monseigneur Barbarin qui a littéralement pété les plombs sur le mariage homosexuel en tenant des propos absolument hallucinants. Je pense qu'à un moment, l'Église a le droit de participer au débat, mais elle n'a pas le droit d'imposer. Les gens qui sont croyants respectent, c'est ça, c'est tout à fait normal, mais ils n'ont pas le droit d'imposer à une société entière leurs convictions. Et on voit que sur bien des questions de société, notamment sur l'euthanasie, c'est aujourd'hui l'Église qui s'impose, et c'est pas normal dans la France des droits de l'homme.
En effet. Différents droits ont été acquis, on va pas tous les citer, mais on peut aller sur le site internet. Alors moi, je voulais vous poser la question, pour faire respecter ces droits, comment procède-t-on ?
Vous savez, déjà, il faut réfléchir à tout ça. Vous savez, c'est jamais facile de penser à sa mort et à celle de ses proches. Mais en même temps, moi, je dis que chacun doit avoir une réflexion. Beaucoup de gens écrivent leur testament. Donc, ça veut dire qu'ils essayent de protéger leurs proches s'il leur arrive quelque chose. Il faut penser aussi à sa propre mort. D'abord, parce que je pense que c'est très sain. C'est très sain dans une société où on passe notre temps à courir vers plus d'argent, plus de responsabilités, qu'à un moment de se dire qu'on va mourir. Parce que quand on se dit ça, eh bien, on profite un peu mieux de la vie. On se dit que, puisque tout ça doit se terminer un jour, qu'il faut peut-être un peu mieux aimer les gens qu'on a autour de soi, et puis profiter des petits moments quotidiens. Et je pense que ça, c'est extrêmement important dans notre réflexion.
Oui, c'est très juste.
Et en même temps, parler avec ses proches, c'est aussi essentiel, leur dire ce qu'on souhaite. D'abord, parler avec ses proches de notre mort, ça nous permet, vous savez, c'est le tabou suprême dans une famille. Quand vous parlez de ça, je peux vous dire qu'après, vous sautez tous les autres tabous et que vous arrivez à parler de différentes questions que vous n'avez jamais évoquées dans les familles. Et je crois que c'est important de dire ce qu'on souhaite pour notre fin de vie. Si par malheur, on a un accident, on est dans un coma, il est important d'avoir dit à ses proches ce qu'on souhaite et surtout de l'avoir écrit, puisque quand même, la loi française autorise ce qu'on appelle les directives anticipées. Donc, vous écrivez vos volontés en disant, voilà, si je suis dans telle situation, moi je ne veux pas qu'on me réanime, je ne veux pas rester dans ce coma-là, je souhaite en arrêter. Et puis en choisissant une personne de confiance qui va pouvoir parler en votre nom, quelqu'un avec qui vous avez discuté longtemps, qui vous connaît, et qui pourra être plus à même de dire ce que vous souhaitez qu'un réanimateur qui va vous voir arriver et qui se retrouve tout seul à prendre une décision pour une personne qu'il ne connaît pas du tout. Donc ces directives anticipées sont importantes, même si, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, la loi française fait qu'un médecin est obligé de vous consulter pour savoir s'il va vous réanimer ou pas, s'il va vous débrancher ou pas, mais en même temps, donc consultez vos directives, consultez la personne que vous avez désignée, mais en même temps c'est lui qui va décider. Et c'est ça le problème, c'est pour ça qu'il faut les écrire tout en sachant que malheureusement c'est une indication, qu'elles ne sont pas obligatoires. Ce qu'il faut, c'est qu'évidemment dans les années qui viennent, on arrive à obtenir que nos directives anticipées doivent être appliquées par les soignants si on les a écrites.
Comment aussi lutter aux côtés de l'association pour le droit à mourir dans la dignité? Il y a peut-être une pétition qui est en cours?
Alors, il y a une pétition sur oui, le site, donc c'est admd.net, donc il ne faut pas hésiter, et puis il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Vous savez, je vous disais, on est 49 000, c'est beaucoup, je pense que plus on sera nombreux, plus on sera entendu des politiques. On a des délégations dans toute la France, il y a 130 délégués. Donc il y a forcément à côté du domicile de chacun un délégué dans le département. Faut pas hésiter, parce que je crois que c'est vrai qu'il faut aujourd'hui militer pour cette ultime liberté, qu'il faut en parler aux responsables politiques, qu'il faut en parler plus que jamais dans la société. C'est là vraiment le dernier droit qu'on n'a pas dans notre pays, et ce droit, il est normal qu'on l'ait. On sent que les choses peuvent changer, mais on a encore besoin qu'il y ait une mobilisation des Français pour que, notamment, la proposition 21 du programme de François Hollande soit appliquée, mise en œuvre le plus vite possible dans notre pays.
Voilà. Alors j'aimerais préciser aussi qu'il y a donc un espace qui est dédié aux médecins. Peut-être vous pouvez nous dire aussi dans quel but, hein ?
C'est-à-dire que nous, évidemment, on sait qu'on doit travailler avec les médecins, parce que si ce n'est pas eux qui doivent prendre la décision, c'est eux qui souvent vont nous aider, parce que vous avez deux modalités, l'euthanasie et le suicide assisté. L'euthanasie, c'est un soignant qui, à votre demande, en ayant vérifié que vous êtes dans les conditions de la loi, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, hein, on n'euthanasie pas quelqu'un qui a un chagrin d'amour ou qui a une dépression nerveuse, hein, à ceux qui racontent un peu n'importe quoi là-dessus. Donc là, évidemment, le médecin est indispensable. Et sinon, il y a le suicide assisté où là, le médecin doit vérifier que vous êtes dans les conditions, mais c'est vous-même qui prenez le produit. Donc on voit que ne serait-ce que pour accompagner la personne, on a besoin de quelqu'un, en tout cas dans la première hypothèse de l'euthanasie. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de travailler avec les médecins, d'autant que nous, on essaye de le faire et qu'on travaille beaucoup avec les médecins de famille. Parce que malheureusement, ces grands médecins qu'on voit à Paris, ces mandarins qu'on entend dans les médias, eux ne veulent pas entendre notre revendication. Et donc pour nous, on pense que ça avancera grâce à la base, parce que l'immense majorité des médecins, elle sait ce que c'est que la souffrance, et ils entendent tout à fait cette demande, et ils n'ont pas envie de porter à eux-mêmes cette décision. Ils ont envie de respecter et d'entendre leurs patients, et c'est bien pour ça que on pense que, voilà, on est même sûr que la plupart des médecins sont prêts pour une loi, parce que ça leur permettra au moins d'être sûr de la volonté du patient.
Alors, à l'association, il y a aussi une ligne d'écoute, donc qui est le 01 48 00 04 92. Donc, les personnes en détresse, j'imagine, appellent, et qui reçoit ces appels?
Alors, c'est vrai que c'est un service qui est composé de bénévoles, mais de bénévoles formés. Qui régulièrement ont des formations, parce que vous imaginez, ils ont souvent des situations absolument dramatiques, soit des gens qui eux-mêmes sont en fin de vie, qui appellent pour dire à la fois leur désespoir de pas être entendu, de devoir continuer une survie qu'ils estiment inutile, et puis aussi des familles qui sont démunies parce que leurs proches avaient écrit des directives, que le corps médical ne les entend pas, et donc ils sont là à la fois pour écouter, parce que c'est souvent un grand travail d'écoute, hein, les gens ont besoin d'être écoutés, et puis d'orientation, parce qu'on se rend compte que quand même la loi permet un certain nombre de choses. L'acharnement thérapeutique est interdit par la loi. On sait que malheureusement, il se pratique encore dans un certain nombre d'unités. Et donc là, c'est notre rôle à ce moment-là d'adresser les personnes à des médecins qui nous soutiennent pour que ces médecins appellent les services médicaux. Et je peux vous dire que quand un médecin de la DMD appelle, en général, on finit par respecter la loi. Ou malheureusement, quand ça tourne, quand vraiment ils veulent rien entendre, on a des juristes. Hein, tous les jours, entre 17h et 19h, vous avez des juristes qui répondent. Et ces juristes interviennent si jamais les hôpitaux, les services dans lesquels une personne est, ne veulent pas respecter la loi, parce que aujourd'hui, en 2012, hein, il faut dire clairement, il y a des services qui ne veulent pas respecter même la loi qui existe, c'est-à-dire le simple laisser mourir, ils ne le respectent pas, et donc évidemment, c'est important pour ça, et c'est pour ça que ce service, merci d'avoir donné le numéro de téléphone, parce que c'est vrai qu'il est vraiment utile pour des gens qui sont dans le désespoir, parce que vous savez, quand vous êtes dans cette situation-là, quel que soit votre milieu social et tout ça, souvent vous êtes bien désemparé, vous êtes bien seul, et vous savez plus à quelle porte frapper, et puis que faire quand vous avez des gens en face qui vous disent c'est comme ça, moi de toute façon j'ai décidé d'arrêter de l'alimenter, de l'hydrater, de la laisser comme ça, et parfois on soulage même pas certaines des douleurs, c'est assez insupportable, soit pour la personne quand elle est encore consciente, soit pour ses proches qui se disent mais comment on peut laisser quelqu'un qui avait des convictions fortes, qui l'a écrit, qui l'a dit, et qu'on laisse comme ça, mourir à petit feu, alors qu'elle avait souhaité en terminer plus rapidement et ne pas avoir cette agonie inutile.
Alors on va redonner ce numéro, hein, c'est le 01 48 00 04 92, ADMD Écoute. Jean-Luc Romero, vous êtes donc le président de l'association ADMD, pourquoi êtes-vous si concerné? Vous utilisez des mots forts aussi, hein, c'est important pour éveiller les consciences, mais pourquoi se militer dans cette association-là?
Vous savez, moi j'ai été confronté très très jeune à la souffrance et à la mort, hein, puisque j'ai appris que j'étais séropositif. positif très jeune, et j'ai vu mourir autour de moi beaucoup de gens jeunes, de 20 ans, 25 ans, dans des conditions absolument atroces, des gens qui demandaient à être aidés, et à ce moment-là, bah, j'étais à la fois soit trop jeune et peut-être trop lâche pour moi-même les aider, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'accepterais plus de voir des proches mourir dans les conditions dans lesquelles je l'ai vu à l'époque. Je crois que c'est vrai, quand on a été confronté à autant de souffrances, on a du mal à entendre ces discours idéologiques, ces grands principes qu'on nous assène à longueur de temps. On sait que face à la souffrance et face à la mort, voilà, il faut répondre à ce que demandent les gens. Et quand les gens n'en peuvent vraiment plus, qu'ils estiment avoir fait leur chemin, avoir dit au revoir aux leurs, eh bien oui, je pense que franchement, dans une société démocratique apaisée, il faut les entendre.
Eh bien, je vous remercie, Jean-Luc Romero, d'être intervenu aujourd'hui sur l'antenne de Fréquence Sillé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.